France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
La santé mentale est devenue au cours des dernières décennies l'un des principaux enjeux de santé publique. Nous recevons aujourd'hui une scientifique qui consacre sa vie, l'épidémiologiste Maria Melchior est notre invitée. La santé mentale a été désignée par le gouvernement comme grande cause nationale en 2025, une priorité reconduite pour 2026. Alors que l'année s'achève, nous est venue l'envie de nous préoccuper de cette question au prisme de la science qui étudie la santé des populations, l'épidémiologie. Comment cette discipline qui étudie des groupes peut-elle nous aider à renouveler nos regards sur la question? Et comment dépasser le cadre intime et individuel pour reconsidérer cette santé mentale au prisme social? C'est tout l'enjeu des recherches de Maria Melchior, notre invitée du jour. Maria Melchior, santé mentale, enjeu social. Bonjour Maria Melchior.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à Sorbonne Université. Vous êtes titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France pour l'année 2025-2026 et vous êtes l'autrice du livre « Santé mentale, un défi pour le 21e siècle » paru aux éditions Michalon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky, @sciencecqfd. Maria Melchior, j'aimerais, avant de parler de votre parcours et de la façon dont vous êtes devenue épidémiologiste, vous poser une question volontairement très très vaste. Quelle place occupe aujourd'hui la santé mentale dans notre société et par extension dans les politiques de santé publique ?
Bonjour et merci de votre invitation. Alors c'est une question en effet très vaste et je pense que la réponse n'est pas simple. C'est-à-dire que à la fois on voit que la santé mentale est une préoccupation pour beaucoup de personnes parce que beaucoup d'entre nous sont touchés par principalement les symptômes d'anxiété ou de dépression ou une forme d'addiction. Et on pourra peut-être revenir sur exactement les prévalences et ce que nous montrent les grandes enquêtes sur ces sujets. Donc on peut chacun et chacune être concerné à un moment de sa vie, connaître des personnes qui sont concernées. La période des fêtes est peut-être le moment où justement on se rapproche un peu des autres ou au contraire on se sent particulièrement seul et c'est des moments où voilà, justement ces préoccupations sur notre état psychique peuvent être plus présentes qu'à d'autres moments. Donc on est en tant que citoyen, en tant qu'individu assez concerné par cette question de santé mentale. C'est une grande cause nationale pour le gouvernement, donc d'abord en 2025, puis en 2026, ce qui répond sans doute à une préoccupation sociétale qui s'est vraiment déployée à partir de l'épidémie de Covid. Mmh. Et là aussi, on pourra y revenir peut-être, mais l'épidémie de Covid nous a montré vraiment notre fragilité individuelle, sociétale. Certains groupes de la population n'ont pas réussi à se remettre, entre guillemets, de cette fragilité après la fin de la pandémie et les jeunes en particulier. Donc voilà, il y a une vraie préoccupation sociétale concernant ce sujet. Après, en ce qui concerne les politiques publiques mises en face pour repérer, prendre en charge les personnes qui ont des troubles psychiatriques ou prévenir leur apparition, je pense qu'on pourrait faire mieux.
On pourrait faire mieux et ce serait le sujet d'une autre émission. Nous, on va se concentrer vraiment sur votre travail à vous en tant qu'épidémiologiste. Je le disais, donc vous êtes épidémiologiste, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas biologiste, vous n'êtes pas neuroscientifique et pourtant, vous vous consacrez à l'étude de la santé mentale. Qu'est-ce que c'est d'abord l'épidémiologie et comment cette approche-là peut-elle nous éclairer sur notre santé mentale à nous en tant que collectif ?
Donc l'épidémiologie, c'est l'étude des tendances dans le domaine de la santé. Donc c'est la recherche des facteurs de risque de maladie, toute maladie. Alors en commençant historiquement d'abord par les maladies infectieuses, puis en se tournant de plus en plus vers les maladies chroniques ou des maladies qui ne sont pas chroniques. Mais enfin bon bref, on peut être épidémiologiste dans divers domaines de la santé. Et donc l'épidémiologie, c'est l'étude des facteurs de risque des grands problèmes de santé en comparant des groupes exposés ou pas à ces facteurs de risque, en étudiant les évolutions des tendances dans le temps, qui peuvent aussi nous renseigner sur l'apparition de nouveaux facteurs de risque ou de facteurs de protection, d'ailleurs, la disparition d'autres. Et donc, on fait ça au travers de grandes enquêtes qui sont analysées avec des méthodes statistiques un peu particulières, mais qui sont finalement relativement proches de celles utilisées dans d'autres domaines des sciences sociales.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense santé mentale, psychologie, on pense pas forcément à l'approche statistique, on pense surtout à des faits intimes, individuels. Comment expliquer ce côté contre-intuitif-là, dont on peut se faire le témoin, comme je le dis à l'instant, et voilà, quels sont finalement les outils fournis par l'épidémiologie pour surmonter cet aspect contre-intuitif-là?
Alors c'est vrai qu'en épidémiologie, on étudie des individus moyens qui n'existent pas. Mmh. Voilà, c'est ça, qui sont des espèces de représentations mentales de la maladie. Mais c'est en partie vrai pour d'autres types de maladies que les maladies psychiques. C'est-à-dire quand on étudie l'épidémiologie des cancers ou des troubles cardiovasculaires, on sait bien que les maladies ont beau être définies dans des classifications internationales, leurs manifestations peuvent être assez différentes selon les individus. Et c'est pareil pour la santé mentale. La spécificité peut-être de la santé mentale par rapport à d'autres problèmes de santé, c'est qu'on n'a pas de mesure biologique pour savoir si quelqu'un a un trouble psychiatrique ou pas. Et c'est vrai, alors il y a beaucoup de recherches sur les biomarqueurs, il y a eu pendant toute une période des recherches très très poussées sur les facteurs génétiques par exemple. Aujourd'hui on cherche des biomarqueurs cérébraux, des biomarqueurs sanguins, mais on n'y est pas du tout encore. Et donc la seule manière d'établir si quelqu'un a un trouble psychique, c'est au travers des symptômes qu'il ou elle déclare, et puis au travers aussi de l'observation de son comportement. Alors, évidemment, les cliniciens peuvent faire ça quand ils sont face à une personne donnée. Dans les enquêtes épidémiologiques, on n'a pas accès à ce type d'informations, ou alors ce serait extrêmement coûteux. Et donc, on passe par d'autres méthodes. On utilise des questionnaires qui sont développés à cet effet pour avoir une mesure qui se rapproche le plus possible de ce que serait une mesure clinique.
Quand on parle d'épidémiologie, on parle souvent d'indicateurs. Quels sont les grands indicateurs qu'on pourrait citer en exemple pour le suivi de la santé mentale en France, par exemple ?
Alors, en France, on a la chance d'avoir de grandes enquêtes populationnelles qui renseignent régulièrement les décideurs et puis les chercheurs sur l'état de la santé, et puis les citoyens, bien sûr, sur l'état de la santé mentale de la population. C'est par exemple le baromètre santé déployé par Santé publique France. Et donc, ce baromètre santé inclut, pas tous les ans, mais assez régulièrement, des questionnaires qui mesurent les symptômes de dépression. Et donc, on demande aux personnes qui participent, qui sont tirées au sort de manière aléatoire pour être représentatives de la population générale, on leur fait passer des questionnaires en général par téléphone, on leur pose des questions qui correspondent aux symptômes de la dépression. Il existe des questionnaires d'une dizaine de questions, par exemple. En fonction des réponses à ces questions, on estime qu'au-delà d'un certain nombre de symptômes, il y a une forte probabilité pour que les personnes aient des symptômes qui correspondent à un état de dépression clinique. Et donc, à partir de ces informations, on établit la prévalence de la dépression en général ou dans certains groupes.
Puis ce qu'il faut dire aussi, Maria Melchior, c'est que l'épidémiologie n'avance pas seule. Elle est en dialogue constant avec d'autres approches, que ce soit le monde clinique déjà, la psychiatrie, la biologie, les neurosciences. C'est vraiment une discipline qui a la croisée de tout un tas de pensées et d'approches.
Absolument, on étudie des facteurs de risque aussi bien biologiques que psychologiques, sociaux, et donc on s'appuie énormément sur les recherches menées par les collègues en neurosciences, en sciences cognitives, en sociologie aussi parfois. Je pense que ce qui est un peu peut-être particulier, alors plus par rapport aux neurosciences et aux sciences cognitives qu'aux sciences sociales dans notre discipline, c'est que on fait très rarement des expériences. Comme je vous le disais, on fait des enquêtes à grande échelle. Et à partir de ces enquêtes, on renseigne un certain nombre d'éléments concernant la santé et puis les conditions de vie ou les événements qui arrivent aux personnes. Et on met en place des méthodes statistiques pour essayer d'établir des liens. Alors, pour aller au-delà des corrélations, il y a un certain nombre de prérequis et il y a toute une méthodologie évidemment qui est assez poussée. On fait assez peu d'expériences. Alors, il peut arriver qu'on étudie des expériences naturelles, donc des situations où des changements de circonstances surviennent sans forcément être maîtrisés par les chercheurs, ou il arrive aussi qu'on étudie l'intérêt de certains types d'interventions ou de programmes de prévention dans des essais randomisés qui se rapprochent de la recherche clinique. Mais globalement, l'épidémiologie est quand même plutôt une discipline observationnelle.
Maintenant qu'on a cerné un petit peu, Maria Melchior, ce qu'était cette approche épidémiologique et cette discipline-là, j'aimerais qu'on fasse un peu votre portrait en tant que chercheuse, parce qu'on aime bien dans cette émission aussi montrer qu'il y a des parcours qui mènent parfois à un travail et que c'était pas tout écrit. Alors vous avez toujours voulu vous intéresser à la santé de vos semblables, ça a toujours été une préoccupation ?
Pas du tout. Non, vraiment, c'est même assez hasard, enfin, le fruit du hasard, ou si le hasard existe, en tout cas, que je me retrouve à être épidémiologiste aujourd'hui. J'étais plutôt attirée par le pôle littéraire et les sciences sociales. J'ai fait un bac littéraire. Mais,
moi aussi. Voilà, on est
bon,
deux.
Bah, comme quoi ça mène à tout, voilà, et oui. Je pense qu'il faut le dire. D'ailleurs, c'est vrai que bon, j'ai un parcours un peu atypique, mais je le dis souvent aux jeunes, aux étudiants ou aux lycéens avec qui m'arrive de discuter, parce que c'est vrai qu'on, voilà, il faut se dire que beaucoup de chemins sont possibles. Mmh. Donc bref, moi j'ai plutôt fait un bac littéraire, mais j'ai eu la chance ensuite de pouvoir poursuivre mes études universitaires aux États-Unis, où le système de sélection, disons, de ces disciplines est très différent de celui qui existe en France, même si en France les choses ont changé et il y a maintenant des voies beaucoup plus interdisciplinaires. Mais aux États-Unis, en fait, les études sont une poursuite de l'enseignement secondaire, et donc on doit valider des disciplines scientifiques, artistiques, etc. Et moi, en réalité, j'étais plutôt partie pour faire des études d'histoire. Et en prenant des premiers enseignements dans ces disciplines, je me suis dit que c'était peut-être pas pour moi. J'ai découvert la psychologie. Et pour le coup, la psychologie telle qu'elle m'était enseignée, c'est-à-dire à la fois avec une approche vraiment de la psychopathologie, des stages cliniques, etc., mais aussi des approches plus scientifiques, des statistiques, des méthodes expérimentales, m'a permis de... En fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être à la croisée de certains intérêts plutôt plus littéraires ou plus ouverts.
Vous vous intéressez à la société, finalement, comme elle va, dans ce cadre d'études de psychologie clinique. Est-ce qu'il y a eu des situations qui continuent de vous accompagner en tant que chercheuse et qui continuent de vous faire réfléchir en tant que chercheuse aux multiples raisons qui ont pu conduire certaines personnes à se retrouver dans des situations? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué dans ce travail-là?
Énormément. Et vraiment, j'ai eu la chance et de pouvoir faire des stages cliniques et de pouvoir mener un petit travail de recherche donc pour valider mon diplôme de psychologie qui a été absolument déterminant. J'ai fait des entretiens avec... Alors, donc c'était aux États-Unis, dans une ville proche de Boston. J'ai fait, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, des entretiens avec des personnes qui étaient en hôpital psychiatrique. Et il se trouve que c'était un hôpital pour les vétérans américains. Puisque aux États-Unis, il y a tout un système de santé spécifique pour les anciens soldats. Et donc le thème de ma recherche n'avait rien à voir avec leur situation d'anciens soldats. C'était pour étudier les symptômes de la schizophrénie par rapport aux symptômes de la dépression. Mais le fait de faire des entretiens filmés avec ces anciens soldats qui racontaient leur parcours, leurs histoires, et qui étaient donc quand même dans des situations et de santé mentale et de précarité, de pauvreté terrible, m'a confrontée à des situations que je n'avais pas envisagées. Et donc, évidemment, une partie des troubles que vivaient ces hommes étaient liés directement au fait d'avoir été soldat, d'avoir été exposé au combat, d'avoir été rejeté pour certains, notamment ceux qui avaient fait la guerre du Vietnam, ensuite à leur retour aux États-Unis. Et donc, il y a une dimension sociale extrêmement importante.
Voilà, ça vous a conduit
importante.
Finalement, de façon indirecte, enfin, même de façon directe, à penser la santé mentale au prisme des inégalités sociales. Et on y reviendra, bien sûr, à ce lien très très fort auquel on ne pense pas forcément toujours quand on parle de santé mentale. Dans ce parcours, dans ce premier parcours scientifique, est-ce qu'il y a eu aussi des scientifiques qui vous ont particulièrement inspiré et qui vous ont donné des outils qui vous permettent encore aujourd'hui d'avancer dans vos recherches?
J'ai eu des professeurs incroyables, mais comme voilà, beaucoup de professeurs sont incroyables et ont vraiment un impact sur leurs étudiants. Et voilà, moi j'ai eu vraiment cette chance-là. Alors, à la fois d'avoir des enseignants en psychologie qui étaient très rigoureux, très exigeants et en même temps très humains et très à l'écoute de leurs étudiants. J'avais notamment un enseignant qui nous a parlé de ses propres problèmes de santé mentale. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de le faire quand on enseigne, et c'est deux facettes, voilà. Mais ça a eu vraiment un impact très important, parce qu'en fait, le fait de se mettre à la place des personnes qu'on étudie ou qu'on essaie de comprendre, c'est extrêmement important dans tout ce qu'on enfin voilà, dans ce type de recherche en santé humaine, en santé publique, où bien sûr on travaille avec des statistiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie, on pourrait dire c'est un peu froid, un peu, mais moi je, il me semble que les statistiques racontent des histoires, voilà, d'une autre manière que la littérature ou les domaines artistiques, mais c'est comme ça que je le vis en tout cas.
Donc vous avez abordé donc dans votre travail de thèse la santé mentale au prisme des inégalités sociales, une thèse que vous avez réalisée en co-tutelle avec Harvard et la faculté de médecine de Paris 11, si je ne dis pas de bêtises. Puis il y a un autre sujet qui s'est imposé, c'est celui de la santé mentale des jeunes. Comment ce sujet est-il devenu central dans votre travail ?
Donc j'ai fait une thèse effectivement en co-tutelle qui n'était pas axée sur la santé mentale, c'était plutôt une thèse, donc puisqu'après la psychologie j'ai continué des études aux États-Unis en épidémiologie sociale, qui est pas un, c'est un domaine qui n'existe pas en tant que tel en France, donc voilà, mais là-bas j'avais vraiment la possibilité d'avoir des cours donc à la fois en épidémiologie mais aussi vraiment sur ces dimensions plus sociales, sociétales. Et ma thèse était plutôt sur les inégalités sociales de mortalité en France, mais j'ai voulu revenir à la santé mentale à l'issue de cette thèse, au cours de mon voilà du postdoctorat, enfin voilà dans mon parcours. Et la raison pour laquelle je me suis intéressée aux jeunes, c'est parce que les enquêtes longitudinales nous montrent que chez des personnes qui ont des troubles psychiques à l'âge adulte, environ la moitié avait déjà des problèmes psychologiques avant l'âge de 14 ans et 75%, c'est-à-dire les trois quarts, avant l'âge de 18 ans. Alors ce sont des estimations, évidemment, encore une fois, il y a des fourchettes, mais... et donc, en fait, ça veut dire que les sources des problèmes de santé mentale sont très précoces, que si on veut s'intéresser aux facteurs de risque, il faut commencer très tôt au cours de la vie. Et si on veut aussi mettre en place des actions de prévention, il faut évidemment qu'elles soient là aussi très tôt.
Et on en parlera bien sûr tout à l'heure plus en détail de cet état des lieux de la santé mentale des jeunes, qui est l'un des enjeux cruciaux quand on parle de santé mentale en France et partout dans le monde. Mais il y a quelque chose que vous dites, Maria Melker, qui m'interpelle, c'est le fait que cette épidémiologie sociale existait bel et bien aux États-Unis, pas du tout en France. Cette approche populationnelle pour parler de santé mentale, c'est quelque chose de très anglo-saxon. Et est-ce que la France commence justement à prendre ce train-là à votre image, ou bien est-ce que ça tarde encore à se mettre en place ?
Alors, oui, c'est très anglo-saxon, mais parce que les méthodes ont été développées voilà, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Peut-être aussi parce qu'en France, la santé mentale a très longtemps été vue plutôt sous l'angle des approches psychanalytiques, qui se prêtent pas beaucoup à la recherche, et en tout cas à l'utilisation... Enfin, on peut faire de la recherche sur l'effet des thérapies psychanalytiques, bien sûr, mais l'approche statistique est un peu différente. Donc voilà, il y a des évolutions comme ça qui sont liées à la pratique des professionnels en santé mentale, et puis à la place qu'a l'épidémiologie, peut-être qu'une des spécificités, c'est qu'en France, la santé publique et l'épidémiologie sont quand même principalement dans le domaine de la médecine. Pour être, par exemple, professeur de santé publique, il faut être médecin. C'est pas le cas dans d'autres pays où d'autres types d'enseignements de la santé publique existent et sont ouverts à des non-spécialistes de la médecine aussi. Mais les choses ont changé, et je trouve qu'aujourd'hui, d'abord, on a beaucoup de données sur la santé mentale de la population, et on en reparlera. Je vois un intérêt grandissant des plus jeunes pour cette question, pour cette thématique. Et puis, on est un certain nombre à produire des statistiques, et tant mieux.
Puisqu'on parle de santé mentale, on va finir par la définir, cette santé mentale, et on va se demander ce que c'est.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre grand entretien avec vous, Maria Melker, et je voudrais vous faire entendre une archive datant de 1979. Il s'agit d'un extrait de l'émission L'Avenir du Futur. Le sous-titre, c'était « La psychiatrie en l'an 2000 ». Le professeur Édouard Zarifian, psychopharmacologue à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, parlait alors de ce que c'est la santé mentale.
Ce sont des mots qui sont des diagnostics. On a parlé de schizophrénie, on a parlé de psychose maniaco-dépressive. Ça fait écho à des termes que vous avez employés tout à l'heure, qui sont des termes qu'en tant que psychiatre, je n'aime pas beaucoup, qui sont les termes folie et fou. Et je voudrais les redresser, ces termes, parce que les maladies mentales et les troubles mentaux embrasse tout un panorama de difficultés à être et de troubles du comportement extrêmement divers qui vont de certaines situations que chacun d'entre nous traverse parfois, comme l'anxiété, comme la dépression, à des maladies graves, à des maladies qui handicapent les individus dans leur vie sociale, affective, professionnelle, etc. Donc je crois qu'il faut avoir en tête que la folie, ça veut rien dire et qu'il faut être beaucoup plus précis et que finalement, il y a une sorte de continuum entre un comportement normal et un comportement très profondément altéré.
Est-ce que les gens qui, par exemple, prennent des somnifères le soir pour dormir ou prennent des tranquillisants le matin sont considérés comme des gens normaux ou, à votre avis, comme des gens qui ont des troubles mentaux ?
Voilà une question insidieuse. Si l'on en juge par les chiffres de consommation de ces médicaments, il est évidemment hors de question d'imaginer que seuls des gens ayant des troubles mentaux consomment ces médicaments. Il faut aussi dire que, quelquefois, on a attaqué cette consommation de médicaments, mais qu'une insomnie rebelle, eh bien, c'est quelque chose de très difficile à supporter et qui va vous entraver dans votre vie du lendemain. Et que la consommation d'hypnotiques, dans un certain nombre de cas, est parfaitement normale parce qu'elle nous aide à mieux supporter les difficultés que l'insomnie engendrerait.
Folie, normalité, Maria Melchior, on entend des termes qui ne sont plus du tout d'actualité. C'est difficile, finalement, de définir la santé mentale.
Oui, alors il y a différentes définitions et peut-être selon l'approche, on n'a pas tous les mêmes. Il y a l'approche dont parle ce psychiatre, qui est vraiment l'approche médicale, la définition des troubles. Il y a des classifications internationales qui existent pour identifier comment se manifestent différents types de troubles. Ces classifications évoluent dans le temps, donc la manière dont on définit par exemple les troubles liés à l'usage des produits psychotropes aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a quelques années, la manière dont on définit l'autisme, la manière dont on définit le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Effectivement, ces troubles sont, les manifestations de ces troubles suivent un continuum, et donc, en médecine, on va avoir tendance à identifier des catégories binaires. Donc, est-ce que quelqu'un a un diagnostic ou pas? C'est ce que dit l'expert dans cet extrait. En psychologie, on va plutôt s'intéresser à la continuité des symptômes. La manière dont ces symptômes évoluent dans le temps aussi, avoir une vision un tout petit peu plus globale. Dans les recherches épidémiologiques, on fait un petit peu les deux, c'est-à-dire que on s'intéresse principalement à la présence ou non de certains troubles caractérisés par la présence d'un certain nombre de symptômes, par exemple la dépression, les troubles anxieux, mais on peut aussi se demander comment vivent les personnes qui ont des symptômes de dépression, qui sont un tout petit peu en dessous du seuil considéré comme étant potentiellement particulièrement sévère. Donc souvent, on a en fait différents types de seuils. Et puis, il y a aussi la définition de la santé mentale qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, alors que tout le monde n'apprécie pas, qui dit que la santé mentale, c'est pas seulement l'absence de troubles, que c'est vraiment la capacité de tout un chacun à vivre une vie la plus productive, la plus satisfaisante possible. Donc sans troubles, ou même quand on a des troubles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble psychiatrique et quand même on a des émotions, bien sûr, et on peut avoir envie d'avoir une vie satisfaisante, vivre avec ses troubles, et la qualité de vie est quelque chose de très important. Mais évidemment, la définition de l'Organisation mondiale de la santé, elle est difficile à transformer en mesure, elle est difficile à manipuler. Disons que je pense que c'est une forme d'horizon, c'est-à-dire cette définition-là ne s'oppose pas forcément aux définitions des troubles psychiatriques. Il existe des troubles psychiatriques et il faut les identifier, les prévenir, les soigner. Mais par ailleurs, même quand on n'a pas de troubles, on peut avoir des variations d'humeur, de comportement, des moments où on se sent peut-être plus angoissé, on fait des insomnies, comme le disait cet expert, et qui sont pas à négliger, parce que la santé mentale, c'est une dimension de ce que nous sommes, tout comme la santé physique.
Vous parliez de mesures, c'est capital quand on fait de l'épidémiologie. Si on doit faire, alors ça c'est pas simple non plus, un état des lieux de la santé mentale en France, quels sont les chiffres que nous donnent ces mesures-là et ces grandes études nationales-là ?
Donc, on a des grandes études comme le baromètre santé de Santé publique France, qui nous dit qu'environ 8 à 10% de la population a des symptômes de troubles dépressifs. Environ 10% de la population probablement a des troubles anxieux. Après, quand on s'intéresse à l'insomnie ou à des problèmes, disons, plus psychosomatiques, ils peuvent être plus fréquents. L'autre aspect qui est très bien mesuré en France, ce sont les troubles de l'usage de différents types de produits et les addictions. Alors, pardon, j'utilise le mot un peu savant, mais voilà, les addictions, disons, au sens large, avec et sans produits. Puisque là, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives met en place également des recueils de données et des analyses répétées pour pouvoir suivre les tendances. Donc, on sait que, par exemple, à peu près 20% de la population, une personne sur 5, fume du tabac tous les jours. Environ 10%, une personne sur 10, a probablement une consommation d'alcool problématique. Entre 3 et 4% des personnes consomment du cannabis de manière régulière, importante, et avec un impact sur leur vie quotidienne. Donc, tout ça pour dire que les problèmes de santé mentale sont quand même très fréquents.
Avec quelles tendances, quelles évolutions notables on peut établir ?
Donc il y a eu vraiment une dégradation de la santé mentale des personnes pendant l'épidémie de Covid, et qui s'est en partie maintenue chez les jeunes. Mais si, disons, les symptômes dépressifs et anxieux dans la population générale sont revenus à la normale, il y a quand même des chiffres autres que ceux provenant d'enquêtes qui, je pense, continuent d'être alarmants. On voit par exemple une augmentation du nombre de cas de suicide jusqu'à 2022, on n'a pas forcément le recul des données ensuite. Et en particulier, parce que donc pendant l'épidémie de Covid, les symptômes dépressifs, les pensées suicidaires, le mal-être en général ont explosé. Et on a eu beaucoup de discussions et de débats pour savoir si c'était juste circonstanciel, si c'est aussi parce qu'on parle plus de la santé mentale et que donc les gens se sentent plus autorisés à en parler, à répondre qu'ils ressentent certains symptômes dans les enquêtes. Voilà, mais on a aussi donc ces chiffres du suicide qui montrent une augmentation, même si elle est relativement légère, mais c'est quand même un inversement des tendances antérieures, en particulier chez les jeunes femmes, ce qui correspond aussi aux chiffres de recours aux soins, là aussi recensés par Santé publique France, et qui montrent vraiment une augmentation assez importante des recours aux soins pour des tentatives de suicide, pour des crises d'angoisse, pour des prises de risques diverses et variées, en particulier chez les jeunes femmes, et ce, depuis l'épidémie de Covid, de manière croissante.
Vous parlez du suicide. En 1897, Émile Durkheim, qui est l'un des fondateurs de la sociologie moderne, écrivait un livre qui s'appelle « Le suicide » et qui attrapait ce thème-là, ce sujet-là, sous l'angle justement de la sociologie et qu'il le considérait comme un vrai fait social. Ma question est simple, c'est est-ce qu'on est tous et toutes égaux face à ces questions de santé mentale ou bien est-ce que la dimension sociologique et sociale est cruciale ?
Alors nous ne sommes pas tous égaux devant les problèmes de santé mentale. Alors effectivement, pour des raisons qui tiennent à nos conditions de vie, donc on voit en France, mais aussi ailleurs, qu'il existe d'importantes inégalités sociales face à la santé mentale dès l'enfance, en réalité. Parce que la situation sociale... Alors, Durkheim a plus particulièrement étudié l'isolement relationnel. Et ça reste un facteur de risque très important de suicide et de troubles sévères de la santé mentale. C'est aussi parfois une conséquence de la maladie psychique, parce qu'évidemment, les troubles psychiques ont des effets sur les relations qu'on peut avoir avec les autres et on peut avoir tendance à s'isoler ou à être exclu du fait de la maladie mentale. Mais les inégalités sociales sont importantes parce que la situation sociale, c'est-à-dire notre situation en termes de revenus, de situation professionnelle, notre niveau de diplôme, en fait, détermine un certain nombre de facteurs de stress auxquels on doit faire face dans la vie. Et en fait, ce sont indirectement ces facteurs de stress qui ont des effets sur notre bien-être, l'état dans lequel on se trouve. Par exemple, les enquêtes montrent bien que les personnes qui sont au chômage sont celles qui ont des niveaux de troubles psychiques les plus élevés. C'est évident que le travail est très important dans notre société. C'est aussi une source de revenus, c'est une source de reconnaissance sociale. Et donc, en fait, la situation sociale englobe comme ça un certain nombre de facteurs de risque plus directs des problématiques psychologiques.
Il y a des disparités de genre aussi. Je disais que d'après Santé publique France, une femme en contrat précaire, donc CDD, mission d'intérim, vacation, contrat d'apprentissage sur 10, déclare une tentative de suicide au cours de sa vie. Donc là aussi, on a des faits qui se matérialisent grâce à ces moyens de mesure proposés par l'épidémiologie.
Oui, alors après, ce qu'on va chercher à faire en épidémiologie, c'est à comprendre les mécanismes qui expliquent ces inégalités sociales. Et par exemple, quand on s'intéresse à la santé mentale des jeunes, on voit très bien que les inégalités qui sont donc captées au travers de la situation sociale des parents en général, puisque les jeunes, bon, avant d'être au lycée, peut-être, et d'avoir des parcours scolaires très différenciés, n'ont pas de situation sociale propre. Mais on peut établir des inégalités sociales à partir du niveau de revenu des familles, par exemple. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que derrière les différences qu'on observe en termes de risque de dépression, d'anxiété, de suicide, chez des jeunes issus de milieux défavorisés par rapport à ceux qui sont plutôt issus de milieux favorisés, il y a un certain nombre de facteurs de risque plus proches. Par exemple, la surreprésentation du nombre de cas de dépression chez les parents. Le fait que la précarité entraîne un stress quotidien, la précarité alimentaire, des difficultés pour pouvoir mener des activités, les difficultés pour pouvoir se projeter dans l'avenir, tout simplement. Enfin, c'est quand même le propre de la précarité. Et donc, il y a un cumul de facteurs de stress qui peuvent s'ajouter, il faut quand même le mentionner, à des déterminants biologiques, puisqu'ils existent aussi. Même si on n'a pas établi les gènes qui peuvent augmenter significativement ou expliquer le risque des troubles psychiques. Il existe une dimension familiale et héréditaire, très certainement, qui interagit avec, justement, les facteurs de stress dans la vie des personnes pour expliquer pourquoi certains sont plus fragiles que d'autres.
Alors, vous coordonnez une cohorte qui s'appelle TEMPO, pour Trajectoire épidémiologique en population, qui inclut 3500 personnes environ. Quel est l'objectif de cette cohorte et comment implique-t-elle justement ce suivi des populations les plus jeunes en matière de santé mentale ?
Donc l'idée de cette cohorte, c'est que, en fait, j'ai repris une étude qui avait été démarrée en 1991 par Eric Fonbonne.
Donc là, on voit aussi l'intérêt d'avoir des mesures dans le temps long.
Absolument. Donc c'est une étude qui a commencé lorsque les participants étaient enfants, et l'objectif initial était d'avoir une photographie de la santé mentale d'enfants issus de la population générale en France, parce qu'il y avait très peu d'études à ce moment-là sur ces questions. Donc cette étude a été menée en 91, et moi il y a eu un suivi en 99, et moi j'ai voulu reprendre cette étude, donc le suivi de cohorte en 2009, pour savoir ce qu'étaient devenus ces enfants une fois qu'ils étaient adultes, parce que, encore une fois, une grande partie des troubles psychiques commencent pendant l'enfance et l'adolescence, mais il y a aussi des manifestations de mal-être quand on est très jeune qui peuvent disparaître ou qui peuvent, au contraire, s'améliorer. Il y a vraiment des diversités de trajectoires et qu'il faut pouvoir étudier de manière longitudinale. Si on interroge les adultes sur, ça existe et on peut le faire, comment vous sentiez-vous quand vous aviez 16 ans, est-ce que vous avez eu des crises d'angoisse, est-ce que vous avez fait une tentative de suicide, on peut recueillir certaines informations et il existe des études qui le font, mais c'est très imparfait. C'est beaucoup mieux de pouvoir étudier les gens dans le temps s'ils acceptent. Et donc, l'objectif de TEMPO, c'était d'une part de mieux comprendre quelles étaient les conséquences des problèmes psychologiques pendant l'enfance sur la santé mentale à l'âge adulte, quel était le degré de continuité et de maintien de ces difficultés psychologiques, quelles avaient été les conséquences des problèmes psychologiques pendant l'enfance sur la scolarité et sur la situation sociale des personnes une fois devenues adultes, dans quelle mesure est-ce qu'il y avait cette forme d'interaction entre situation sociale et santé mentale.
Quels sont les résultats, du coup, qu'apportent les analyses de ces travaux menés dans le cadre de la cohorte TEMPO ? Voilà, est-ce qu'on constate une dégradation de la santé mentale chez les jeunes ? Si oui, pourquoi ? Sinon, quelles sont les tendances, finalement, qui se dessinent ?
Oui. Alors, avec les données de l'accord TEMPO, ce qu'on a pu montrer, c'est une forme d'abord de transmission intergénérationnelle, parce que les parents des participants étaient eux-mêmes dans une cohorte qui s'appelle Gazelle. Et donc, on a pu montrer l'impact de la dépression parentale, des conditions de vie défavorables pendant l'enfance, sur la santé mentale, puis la scolarité, puis le risque de troubles psychiques à l'âge adulte. Donc une forme de cercle vicieux, en fait, qui s'instaure. Et ça, c'est quand même... c'est assez évident. Sachant qu'on peut, évidemment, casser ce cercle vicieux de diverses manières. Mais en tout cas, après, ce que nous montrent ces données, bon, là, maintenant, les participants ont entre 40 et 50 ans. Mm-hmm. Donc, ils sont plutôt parents eux-mêmes, en fait. Et on aimerait pouvoir étudier leurs propres enfants pour continuer cette exploration des transmissions intergénérationnelles. Mais d'autres données nous renseignent sur le fait que, chez les jeunes, la santé mentale actuellement n'est... malheureusement, pas au beau fixe. On estime qu'environ un jeune sur trois, un lycéen ou un jeune de 17 ans sur trois, a des symptômes de dépression. Environ un jeune sur cinq a des symptômes d'anxiété. Par contre, ce qui s'est amélioré avec le temps, c'est la prévalence des troubles liés aux usages de différents types de produits. La consommation de tabac a beaucoup baissé, la consommation d'alcool a beaucoup baissé.
Le cannabis également.
Alors, d'autres types de produits, on parle beaucoup ces jours-ci du protoxyde d'azote, par exemple. Donc, effectivement, il y a une diffusion un peu plus importante qu'auparavant, mais c'est incomparable par rapport au taux de prévalence du tabagisme. Il y a 20 ans. J'ai regardé les chiffres. Au début des années 2000, 40% des jeunes de 17 ans fumaient des cigarettes tous les jours. Aujourd'hui, c'est 13%.
Mmh. Alors, on verra bien sûr à l'évolution de ces conduites addictives, Maria Melchior, mais pour parler de cet état des lieux de la santé mentale des jeunes qui n'est pas forcément au beau fixe, est-ce qu'il faut incriminer en premier lieu le confinement du Covid-19 durant la période de la pandémie du Covid-19 qui a eu un effet absolument délétère sur cette santé mentale-là? Est-ce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce dont il faut absolument parler pour dire ça c'est quand même une des raisons principales pour lesquelles cette santé mentale des jeunes s'est dégradée?
Alors le Covid d'abord et le confinement, parce qu'il y a eu évidemment les périodes où on n'avait pas d'activité sociale, où les adolescents, les enfants n'allaient pas à l'école, mais il y a quand même aussi un effet juste de cette pandémie où tout d'un coup, tous les jours, on comptait les morts à la télévision et on était tous quand même très très préoccupés. C'est une maladie qu'on ne connaissait pas, dont... Alors, même si la recherche est allée très très vite pour identifier et les causes et les groupes particulièrement à risque d'avoir une maladie sévère, enfin, si on se replonge en arrière, il y a eu quand même toute une période vraiment d'effroi collectif qui évidemment a touché les adultes mais aussi les enfants. Donc il y a une génération en effet de jeunes qui ont été vraiment directement impactés. D'ailleurs ça se ressent dans les résultats scolaires par exemple. Il y a les enquêtes menées par l'Éducation nationale montrent que certains enfants qui étaient en âge d'apprendre à lire et à écrire au moment de la pandémie n'ont pas tout à fait les mêmes résultats scolaires que ceux qui étaient plus jeunes ou plus âgés. Mais au-delà, donc ça, je veux dire, si c'était que l'épidémie de Covid, on aurait un effet sur une cohorte. Mais en fait, on voit que des jeunes qui étaient très très jeunes pendant la pandémie vont pas très bien non plus. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu déréglé à ce moment-là. On a perdu confiance dans l'avenir collectivement. Il y a aussi quand même des effets un peu à moyen terme qu'on commence à voir émerger sur l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de la précarité d'emploi. Un enfant sur cinq en France vit dans une famille monoparentale. Et les familles monoparentales sont vraiment la catégorie de la population qui est la plus touchée par la pauvreté et l'augmentation de la pauvreté. Plus d'un tiers vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça fait quand même beaucoup de jeunes qui sont dans des situations très complexes. Et on voit quand on interroge les adolescents, ils sont pas très optimistes sur l'avenir, malheureusement, même si certains le sont. Et je pense qu'il faut aussi essayer de mieux comprendre ce qui leur donne de la force, évidemment. Notre projection vers l'avenir a peut-être un peu changé et les jeunes sont particulièrement sensibles à ça.
Alors après avoir parlé justement de cette épidémiologie en santé mentale chez les plus jeunes, on va parler d'autres travaux que vous conduisez, notamment concernant ces conduites addictives qu'on évoquait à l'instant. Ce sera juste après ça. Climb up the age of the Hollywood sign. Cause we're the masters of our own fate. Lust for Life par Lana Del Rey dans la science CQFD sur France Culture. Nous recevons aujourd'hui en grand entretien l'épidémiologiste Maya Melchior, directrice de recherche à l'INSERM, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à Sorbonne Université et titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France pour l'année 2025-2026. Maya Melchior, j'aimerais à présent qu'on aborde une autre dimension de votre travail qu'on a déjà un peu évoqué, vos recherches en tant qu'épidémiologiste sur les addictions. Et pour introduire ce sujet, je vous propose d'écouter un extrait d'un journal télévisé, celui de France 3, datant de 2010.
Premier geste du matin et dernier de sa journée. Chez cet architecte de 32 ans, le smartphone ne s'éteint jamais. C'est devenu un réflexe dans tous ses déplacements. Grâce à son téléphone tactile relié à Internet, Yann reste connecté à ses amis et surtout à son travail, 24 heures sur 24.
On est vraiment dans l'instant en permanence et qu'on va recevoir un mail d'un client. On va pas le lire quand on rentrera au bureau, on va le lire tout de suite. Du coup, on va peut-être y répondre plus rapidement.
Quand je fumais, j'allumais une cigarette le matin. Maintenant, j'allume mon iPhone.
Voilà. Et vous êtes dépendant ?
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais.
Le smartphone peut-il rendre accro ? Plus d'un Français sur 10 est aujourd'hui équipé. Le marché hexagonal est en pleine croissance, plus 48% au premier trimestre 2010. Avec un risque d'un nouveau genre, les médecins l'appellent acrophonie.
Cette addiction au téléphone ne survient pas chez tout le monde, comme toutes les dépendances, et jamais du 100%. Mais va survenir, cette acrophonie va survenir chez des gens dont l'émotivité est plus importante, qui auront besoin effectivement d'être en lien permanent avec l'autre.
Une dépendance qui pourrait dans le futur entraîner des troubles du sommeil ou de la concentration, particulièrement visés les jeunes connectés en permanence.
Ça passe le temps, on ne voit pas le temps passer avec ça.
On ne voit plus le temps passer.
On ne voit plus le temps passer. Et puis comme ça, on est dans notre petite bulle, on oublie les gens autour.
C'est négatif dans le sens où ça contribue à une accélération permanente de nos rythmes de vie. Et le fait que, justement, pour penser un peu, il faut s'arrêter un moment. Hein, il faut se poser.
Il faut se poser, Maya Melchior, c'était il y a 15 ans et on parlait déjà d'addiction aux écrans. Avec cette acrophonie qui est un concept qui n'a pas trop fait date, mais tout de même quelques points intéressants dans cette archive. Et sur cette addiction finalement naissante aux écrans, ça c'est toujours intéressant aussi de se pencher sur ces addictions passées. Cet homme qui parle de son addiction au tabac qui s'est transféré sur son addiction au téléphone. Quelles sont les addictions qui viennent et que vous anticipez en tant qu'épidémiologiste?
Alors oui, cet extrait est vraiment visionnaire. On y est, hein, en fait. Ça y est, c'est en 2025. On reconnaît, parce que les autorités médicales reconnaissent l'addiction aux jeux vidéo comme étant vraiment une pathologie à part entière. L'addiction aux réseaux sociaux n'est pas encore identifiée comme étant un trouble psychiatrique en tant que tel, mais on s'interroge quand même de plus en plus collectivement là-dessus. Et il y a beaucoup de recherches qui vont nous permettre de mieux comprendre avec le temps à la fois quels sont les comportements, parce qu'en fait une addiction c'est un comportement qui peut être lié soit à un produit, soit à ne exister sans produit, qui consiste à perdre le contrôle de son usage, de son activité, et le faire malgré des retentissements négatifs. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, malheureusement, le fait de ne plus pouvoir contrôler son temps d'usage, la manière dont on le fait, les horaires auxquels on consulte et on scrolle sur les réseaux sociaux, et le fait que cette activité a des impacts négatifs, alors d'abord sur l'activité physique, ça c'est quand même assez démontré, mais aussi sur les relations en dehors des réseaux sociaux avec d'autres personnes, etc., ou d'autres types d'activités. Je pense que ça y est, là, on a identifié le fait qu'il y a un sujet et qu'il y a une difficulté, surtout vu que la manière dont les réseaux sociaux sont paramétrés, parce qu'il y a tout un enjeu évidemment autour de la manière dont les algorithmes qui existent, voilà, derrière les plus grandes plateformes de réseaux sociaux nous amènent et sont vraiment conçus pour nous amener à consulter le plus possible et ce, quelle que soit la personne dans l'extrait, elle parle d'une bulle, oui, on est complètement dans une bulle, quoi.
Donc là, on voit finalement que votre pratique en tant qu'épidémiologiste, à travers ce sujet d'analyse des tendances en matière de conduite addictive, se situe finalement à une charnière entre un surplomb pour regarder comment ça se passe depuis le passé et ce qui vient. Et donc, du coup, vous vous situez aussi dans un espace de dialogue avec le politique en matière d'impératifs, d'actions. Quels sont finalement aujourd'hui les enjeux en matière d'accès aux soins, de prévention, qui sont cruciaux en matière de santé mentale et que vous pouvez éclairer, vous, en tant qu'épidémiologiste ?
Alors, malheureusement, et c'est peut-être un peu surprenant, on a assez peu de données, finalement, sur les recours aux soins, on en a, mais sur le fait que les recours aux soins répondent à des besoins et la manière dont ces recours aux soins, la qualité, disons, du suivi. C'est-à-dire que, par exemple, on a des études assez anciennes qui montrent que, par exemple, chez les personnes atteintes de dépression, environ une sur trois va avoir accès à une prise en charge médicale. Cette prise en charge médicale peut être variable, c'est-à-dire que ça peut être un médecin généraliste. Et d'ailleurs, chez les médecins généralistes, environ un tiers des consultations sont liées à des problématiques de santé mentale. Et il faut savoir que 90% des médicaments psychotropes sont prescrits par les médecins généralistes. Donc c'est vraiment le professionnel de santé de premier recours. Donc ça peut être le médecin généraliste dans un premier temps, ça peut être un psychologue, peut-être un psychiatre si besoin. Donc pour des pathologies peut-être plus sévères et mieux caractérisées, les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'autisme, le recours aux soins peut être plus important. Mais derrière ça, évidemment, il y a des situations très 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 différentes. Il y a aussi, on a parlé des inégalités sociales dans la survenue des troubles psychiques. Il y a aussi d'importantes inégalités sociales et spatiales dans l'accès aux soins. Alors ça, c'est quelque chose qui a été quand même très...
Dans le diagnostic et l'accès aux soins.
Dans le diagnostic et dans la possibilité d'avoir accès à des soins de qualité. Parce que souvent, les prises en charge sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a parfois les médicaments ne sont pas forcément le premier type de traitement nécessaire, mais l'accès à la psychothérapie en particulier ou à d'autres types d'accompagnement psychosocial peuvent à la fois être empêchés pour des personnes qui n'ont pas les moyens de les payer ou qui n'ont pas d'accès à des professionnels à l'endroit où elles vivent. Il y a vraiment des inégalités très importantes. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour essayer de remédier à ces inégalités sociales, en particulier la mise en place de Mon Soutien Psy, qui est donc un nouveau dispositif depuis 2022 qui permet d'avoir accès à des consultations de psychologues, c'est-à-dire qui permet aux psychologues de s'affilier à la sécurité sociale.
Et d'avoir 12 séances remboursées, voilà. C'est ça ?
Et qui permet d'avoir 12 séances remboursées sans prescription médicale. Alors évidemment, il y a des inégalités territoriales quand même parce que je crois que les dernières estimations indiquent qu'environ 15% des psychologues se seraient affiliés à ce dispositif. Donc voilà, il y a pas
minorité,
c'est une petite minorité pour plein de raisons différentes. Il y a évidemment plus de psychologues dans les villes que dans la campagne ou dans les banlieues. Donc il y a vraiment des différences spatiales qui peuvent exister. Néanmoins, c'est une manière d'essayer d'élargir l'offre de soins pour permettre à plus de personnes d'avoir accès à une psychothérapie, un recours aux soins quand nécessaire.
Pour conclure, Maria Melchior, puisqu'il nous reste déjà une petite minute trente de discussion, vous allez donc animer cette chaire de santé publique au Collège de France. Comment vous allez donner à comprendre ces enjeux autour de l'épidémiologie sociale et de la santé mentale ?
Alors le cours se déroule sur plusieurs semaines, donc j'ai la chance de pouvoir développer plusieurs idées en parallèle. D'abord, je pense que c'est important de faire connaître l'épidémiologie, la santé publique, ce que cette approche peut nous montrer de l'état de santé mentale de la population, comment on s'y prend pour mesurer la santé mentale, identifier les facteurs de risque. Et c'est vraiment une approche qui est complémentaire à celle que peuvent avoir les cliniciens, les psychiatres qui, ont un diagnostic de la situation sur la base des personnes qu'ils reçoivent en consultation. Donc là, il s'agit vraiment de parler plus de population générale. Ensuite, on va parler des grands facteurs de risque, des grandes thématiques qui sont sources de stress et de problèmes de santé mentale. Les difficultés socio-économiques, les violences, une histoire familiale qui peut être aussi marquée par des troubles psychiques et qui peut donner lieu à des problèmes de santé mentale de diverses manières. Voilà, donc il y a différents thèmes.
Et on pourra bien sûr trouver tous ces cours en ligne sur le site du Collège de France. Merci beaucoup à vous, Maria Melchior, d'être venue nous parler aujourd'hui de notre santé mentale. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Michalon, Santé mentale, un défi pour le 21e siècle. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À présent, il est l'heure de retrouver Alexandre Morales et sa chronique Avec Science.
Comment le bruit affecte-t-il notre sommeil? On le sait depuis longtemps, le bruit peut être néfaste pour la santé. D'abord, quand il est trop fort, il abîme l'audition. Les fêtards et ceux qui travaillent sur des chantiers bruyants en auront fait l'expérience. Mais il a aussi des effets extra-auditifs qui sont plus pernicieux. Selon le rapport de 2025 de l'Agence européenne pour l'environnement, une exposition chronique au bruit dès 40 décibels la nuit et 55 décibels le jour aurait des effets néfastes sur la santé et un Européen sur 5 y serait exposé. Le bruit déclenche des réactions physiologiques et des réponses psychologiques au stress. C'est aussi un facteur de risque d'anxiété, de dépression, de troubles de l'apprentissage, de maladies cardiovasculaires, d'obésité ou encore de diabète de type 2. Et sur le sommeil, il a aussi des effets très concrets. Maxime Chauvineau est chercheur à Bruit Parif, l'Observatoire du bruit en Île-de-France.
On est vraiment sur la microstructure du sommeil et qui, sur l'ensemble de la nuit, va induire une diminution de la quantité de sommeil, une augmentation de la latence d'endormissement. C'est notamment le cas lorsqu'on est exposé au bruit en fin de journée, lorsqu'on veut se coucher. Une augmentation des réveils nocturnes, voire même des réveils précoces, et c'est notamment le cas lorsqu'on l'observe hein, avec la reprise du trafic le matin. Et également, au niveau de la structure du sommeil, une diminution du sommeil lent profond, qui est le stade de sommeil de récupération physiologique et de sommeil paradoxal. Et donc, sur le court terme, à la suite d'un sommeil perturbé dû au bruit, cela va augmenter la somnolence pendant la journée, perturbation de l'humeur, diminution de la concentration, des performances, notamment cognitives. Et sur le long terme, ça augmente le risque d'insomnie chronique, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, d'inflammation, surpoids, obésité, diabète de type 2, troubles cognitifs. Donc ce sont des effets à la fois directs du bruit, mais aussi indirects via l'impact du bruit sur les perturbations du sommeil.
Le bruit nocturne est donc une importante problématique de santé publique. C'est ce qui a motivé la mise en place de l'étude Somnibruit à laquelle a participé Maxime Chauvineau. Somnibruit explore les conséquences du bruit sur les troubles du sommeil de 10,5 millions de franciliens, c'est-à-dire les habitants des 20 arrondissements parisiens et de 432 communes proches. Le projet a publié récemment deux études dans lesquelles les chercheurs se sont intéressés à la répartition territoriale du remboursement des médicaments psychotropes hypnotiques qui traitent l'insomnie chronique, c'est-à-dire entre autres les somnifères. Et ils ont comparé ces données à ce qu'on appelle des cartes stratégiques de bruit. Elles utilisent des modélisations informatiques de la répartition du niveau de bruit en fonction de paramètres comme le revêtement des routes ou les données du trafic routier par exemple. D'habitude, on étudie les bruits du trafic routier, aérien et ferroviaire, mais la nouveauté de cette étude, c'est qu'elle s'intéresse aussi aux bruits liés aux activités récréatives nocturnes. Donc, ils ont inclus les terrasses de bars, de cafés et de restaurants, dont la moitié se situe dans Paris.
Il y a environ 8 millions d'habitants au sein de l'agglomération parisienne. Autrement dit, plus de 75% de la population qui est exposée à un niveau de bruit supérieur ou égal aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis du bruit routier. Donc c'est loin devant le bruit ferroviaire, le bruit lié aux activités récréatives, où c'est autour de 11,5% de la population. Et on est autour de 10% de la population qui est exposée au bruit du trafic aérien supérieur ou égal aux recommandations de l'OMS. Et lorsqu'on croise les données d'exposition au bruit, donc des cartes stratégiques de bruit, avec les données de remboursement de médicaments psychotropes à visée hypnotique, on a observé que chaque source de bruit est associée significativement à une augmentation du remboursement de médicaments psychotropes à visée hypnotique, avec un effet le plus fort, le plus marqué pour le bruit routier, puis récréatif, puis aérien, puis ferroviaire.
Ajoutons aussi que les femmes, les personnes âgées et les socio-économiquement défavorisés sont les plus exposés. Alors, Pour ce qui est des effets, des bruits, des transports, on se doutait de ces résultats, mais c'est la première fois qu'une étude montre le lien entre les activités récréatives nocturnes et les problèmes de sommeil. C'était pourtant un sujet essentiel puisqu'à Paris, le nombre de terrasses et de plaintes pour tapage nocturne ne cesse d'augmenter. Ici, on parle de problèmes parisiens, mais cette étude a vocation à être reproduite dans d'autres agglomérations françaises et européennes. Les auteurs relèvent tout de même une limite à leur publication, c'est qu'il s'agit de modélisation du bruit et de mesures indirectes des problèmes de sommeil. Pour pallier cette faiblesse, une nouvelle étude est en préparation pour aller cette fois mesurer directement le bruit chez les habitants ainsi que leur constante biologique.
Merci beaucoup Alexandre Morales pour votre chronique et tout de suite on continue avec le Fil Science en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. La professeure d'anthropologie génétique Evelyne Ayer poursuit comme chaque semaine son récit de l'Odyssée des humains. Le réveillon approche, on va donc se faire beau.
Quelles que soient les cultures, les populations humaines partout à travers le monde, les humains aiment à se faire beau. Cette beauté prend des formes variées, que ce soit des peintures corporelles, des coiffes, des habits. Alors, depuis quand l'humain se fait-il beau ? C'est une question dont la réponse n'est pas simple. En effet, plein d'éléments d'une mise en beauté ne laissent pas de traces. Une coiffure de cheveux, une tresse de fleurs. Mais l'étude des bijoux et des vêtements nous donne des indications. Les plus anciennes parures retrouvées datent de 80 000 à 100 000 ans. Vous avez bien entendu, 100 000 ans. Ce sont des colliers faits de coquillages percés. On les trouve en Afrique du Sud et en Afrique du Nord. Et pour rappel, il y a 100 000 ans, notre espèce Homo sapiens ne vivait encore qu'en Afrique. Plus on avance dans le temps, et plus ces parures sont trouvées en nombre sur les sites archéologiques. Cela veut dire qu'on en retrouve partout sur la planète où Homo sapiens s'est dispersé. Qu'elles soient faites de coquillages enduits d'ocre, d'ossements, de perles en minéraux colorés ou d'ivoire de mammouth. Et figurez-vous qu'Homo sapiens n'est pas le seul à se soucier de son apparence. Néandertal, notre cousin dans la lignée humaine qui a disparu il y a 30 000 ans, portait lui aussi des parures. Par exemple, des grandes plumes d'un immense rapace, l'aigle royal. Une étude a aussi conclu qu'il utilisait des pigments naturels sur sa peau. Le rôle de ces pigments fait encore débat. Protection contre le soleil, les insectes ou une réelle volonté de se peindre le corps. Quant aux vêtements, il est raisonnable de penser que nos ancêtres ont commencé à en porter dès l'arrivée dans les zones froides ou tempérées. Car je vous le rappelle, nous autres Homo sapiens sommes un singe tropical. Il a fallu s'adapter au froid une fois sorti d'Afrique. D'ailleurs, Néandertal, lui qui vivait en Eurasie, utilisait des peaux d'animaux pour se protéger du froid, bison ou cheval. Mais était-ce des couvertures ou des vêtements ? Difficile de savoir. On a des preuves infaillibles de la confection de vêtements avec l'apparition d'outils élaborés par Homo sapiens. Nos ancêtres se servaient de poinçons pour trouer les peaux de bêtes et d'aiguilles à chat en os ou en ivoire pour coudre leurs vêtements. Ils utilisaient même des fibres végétales ou des tendons d'animaux comme fil. Les premiers couturiers étaient nés. Et alors ces vêtements étaient-ils beaux ? Il est raisonnable de le penser car l'humain se soucie de son apparence depuis 100 000 ans. Difficile, vous l'aurez compris, de se prononcer sur les goûts vestimentaires des premiers Homo sapiens. Mais le développement de parures, bracelets et autres statuettes est associé à une forte volonté esthétique de nos lointains ancêtres. Il y a donc fort à parier qu'ils ne vivaient pas nus, même dans des régions du monde moins froides. Juste histoire d'être beau.
Merci beaucoup Evelyne Ayer d'avoir déroulé ce Fil Science. On vous retrouve sur la page du Fil Science sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Et bien sûr, la semaine prochaine dans la Science CQFD. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Tom Umdenstock, Alexandre Morales, Céline Lozen, Nafi Terras, Ali Ruyer-Thompson, Noémie Eliazor, Joseph Schlegel, Natacha Triou. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui Éric Perruchot-Triboulet. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.